France Info.
Didier Samour, avant d'accueillir votre invité dans quelques instants, d'abord en bref, la grève contre le plan d'économie à Radio France a été particulièrement suivie hier.
Oui, toutes les antennes publiques ont été perturbées tout au long de la journée, les stations nationales comme les locales, avec par exemple 37 des 44 matinales de France Bleu qui n'ont pu être diffusé selon les syndicats, des syndicats qui revendiquent un mouvement suivi par les trois quarts des salariés, tandis que la direction avance un taux de participation de 42%. Les syndicats réclament donc un retrait du plan de la direction, laquelle demande une poursuite du dialogue avec les partenaires sociaux.
Depuis hier, une trentaine de médias à travers le monde, dont Radio France et le journal Le Monde en France, débutent une série de publications sur des scandales liés à l'environnement. L'organisation Forbidden Stories est à l'origine de ces enquêtes qui font partie d'un projet baptisé Green Blood, et dont nous accueillons à présent le directeur.
Bonjour Laurent Richard.
Bonjour.
Forbidden Story, c'est une organisation qui depuis fin 2017 reprend des enquêtes commencées par des journalistes qui sont menacés, emprisonnés, voire tués pour avoir fait des révélations. Cette fois-ci, vous intéressez à des crimes environnementaux, on dit. De quoi s'agit-il précisément ?
En fait, il s'agit de poursuivre le travail des reporters qui ont été assassinés, menacés, censurés ou arrêtés alors qu'ils enquêtaient sur des sujets importants et plus précisément des sujets liés à des scandales environnementaux. On a décidé, il y a 8 mois de ça, de poursuivre le travail de ces reporters en Inde, en Tanzanie, au Guatemala, qui enquêtaient sur les pollutions de l'industrie minière. Et ensemble de terminer ce travail-là pour faire en sorte qu'on ait accès à ces informations qui sont extrêmement importantes. Quand un journaliste meurt, quand il est arrêté, en général, c'est précisément parce qu'il travaille sur un sujet extrêmement important.
Alors vous avez ciblé, vous le dites, la Tanzanie, le Guatemala, l'Inde. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez porté votre choix sur ces trois pays ?
Il s'est passé des choses extrêmement graves, c'est-à-dire que en Tanzanie, par exemple, l'enquête que nous avons publiée hier avec tous nos partenaires raconte l'histoire de journalistes en Tanzanie qui ont essayé d'enquêter sur une mine au nord de la Tanzanie, la mine Mara Nord, qui appartient à une société anglaise qui elle-même appartient au géant mondial de l'or qui s'appelle Barrick, qui est un groupe canadien. Et cet or finit ensuite dans nos smartphones, est acheté ensuite par Apple via une raffinerie ou avec d'autres marques extrêmement connues. Les journalistes ont essayé d'enquêter et de savoir ce qui se passait là-bas sur le plan environnemental. Cette mine pollue l'environnement en Tanzanie, pollue les nappes phréatiques à cause des produits chimiques qui sont utilisés pour extraire l'or. Et aussi, il y a eu de graves atteintes aux droits humains, des cas de viol, des cas de meurtre commis par soit la police locale ou par les gardes de la mine. Et donc, c'est pour à chaque fois que des reporters ont essayé de raconter ça, ils ont été censurés, l'un a dû s'exiler. Et donc, on a décidé de poursuivre ce travail-là parce que c'est pas seulement une histoire tanzanienne, c'est une histoire extrêmement importante pour la population tanzanienne, mais aussi pour la population du monde entier, puisqu'il s'agit de grandes marques de la technologie qui ensuite se procurent cet or via des raffineries qui un peu partout dans le monde.
Alors, selon le comité To Protect Journalists, au moins 13 journalistes ont été tués en enquêtant sur les affaires de l'environnement et 16 autres décès sont encore inexpliqués. Est-ce que ça traduit les enjeux dans ce secteur et la dangerosité à enquêter ?
Oui, on voit bien en fait quels sont les sujets extrêmement dangereux aujourd'hui. Et on voit bien aussi, c'est pour ça qu'on voulait faire un sujet, on voulait faire une enquête mondiale pour montrer aussi cette menace qui est globale. Que l'on soit en Tanzanie, en Inde ou au Guatemala, finalement, c'est la même opacité qu'on rencontre. Finalement, c'est la même impunité que l'on rencontre. Quand ces pays-là, ces gouvernements avaient la complicité de certains entrepreneurs locaux, voire de grandes industries, commettent justement des atteintes contre la liberté de la presse, il y a une impunité à chaque fois. Donc en poursuivant ce travail, on envoie aussi un message et un signal fort.
On est plus fort que vous.
Vous avez tué le messager, vous avez arrêté le messager, vous n'arrêterez jamais le message. Donc c'est aussi le but ultime de Forbidden Story, c'est de défendre la liberté de la presse, de défendre le journalisme en faisant du journalisme pur et dur.
Vous avez embarqué d'ailleurs une quarantaine de journalistes, une trentaine de médias. Comment ça s'est mis en place cette organisation ?
Assez simplement, on a proposé à des grands titres de presse comme Le Monde, Le Guardian et d'autres un peu partout dans le monde
de la cellule d'investigation
de Radio France, évidemment, de participer à cette investigation journalistique. Ça n'est que du journalisme sur des sujets extrêmement importants. Le principe ensuite de ce type de collaboration, c'est que on travaille dans le secret, on communique de manière chiffrée, Ce sont des investigations qui sont extrêmement dangereuses.
Vous retournez sur place dans les pays que vous avez cités, évidemment.
On retourne sur place, on envoie des
reporters. Donc ça suppose une prise de risque aussi de votre part?
Oui, ce sont des enquêtes extrêmement dangereuses. Ce sont des enquêtes qui ont déjà, en général, coûté la vie à des confrères. Donc, pour nous, c'est extrêmement...
Parce qu'aller remplacer un journaliste qui a été tué sur le terrain, c'est prendre presque autant de risques.
C'est prendre beaucoup de risques, mais justement la collaboration peut apporter de la protection. C'est précisément parce qu'on est plusieurs qu'on peut se protéger les uns les autres et puis finalement protéger l'information. Si on protège l'histoire, si on protège l'information, alors on peut protéger le journaliste. Ça fait aucun sens finalement de s'en prendre à un journaliste. Il y en a 40 autres qui sont prêts à reprendre le travail derrière.
Laurent Richard, je racontais que c'était fin 2017, que c'était créé Forbidden Stories. C'était après justement l'assassinat de journalistes et notamment une affaire de corruption à Malte. Et vous avez enquêté dessus. Alors, il y a publié les enquêtes, mais qu'est-ce que ça donne concrètement derrière? Est-ce qu'il y a des suites autres que cette publication?
Je pense que pour l'affaire maltaise, pour l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, les autorités maltaises freinent autant que possible l'investigation sur place. Mais l'Union européenne, la Commission européenne regardent de près leurs pays membres pour voir vraiment ce que Malte et les autorités maltaises vont faire. En publiant le projet Daphné, avec 45 journalistes, 18 organisations de presse qui ont travaillé pendant 6 mois pour enquêter non seulement sur le meurtre de Daphné, mais aussi poursuivre son travail, je pense que là aussi on a envoyé un message fort aux institutions européennes, au gouvernement maltais et aux ennemis de la liberté de la presse, en poursuivant le travail de cette journaliste qui était extrêmement importante et qui travaillait sur des sujets qui n'étaient pas seulement des sujets maltais, mais qui avaient à voir avec le blanchiment d'argent, la corruption, au sein même de l'Union européenne.
Merci Laurent Richard. Ces enquêtes, elles sont donc publiées tout au long de la semaine et notamment tous les soirs ici même à 18h sur l'antenne de France Info grâce au travail de Benoît Colomba de la cellule Investigation de Radio France, à retrouver également sur franceinfo.fr. Merci infiniment d'être venu ce matin nous en parler.